midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de l'été, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour et bienvenue, mon invité aujourd'hui est Akli Tadjer. Bonjour Akli.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes le grand décongélateur de mémoire, écrivain, scénariste, et vous publiez le deuxième tome de votre saga d'audace et de liberté aux escales. Alors, de l'audace, c'est Danton.
Encore de l'audace.
Ouais.
Toujours de l'audace.
Et à la fin.
Et nous serons sauvés.
Et nous sortirons de la longue nuit coloniale.
Ah, mais ça, c'est Adam qui dit.
Voilà. Adam, c'est le héros de votre livre.
De ma série, de ma trilogie que j'ai commencé avec D'amour et de guerre, qui traitait de la période 39-45, l'histoire de ces soldats coloniaux qui sont allés défendre ou voir mourir pour une liberté qu'ils n'avaient pas chez eux. Voilà, je raconte cette saga à travers d'un personnage qui s'appelle Adam, un jeune Kabyle qui est déraciné, enrôlé de force et qui va connaître les affres de la guerre et surtout qui va se découvrir une conscience nouvelle à partir de ce moment-là, à savoir que l'empire qu'on lui décrivait comme imbattable, insurmontable, indépassable va s'écrouler très vite devant ses yeux.
Mmh. Et donc, de retour de la guerre, eh bien, il va militer déjà, en tout cas il va commencer à réfléchir à cette Algérie nouvelle qu'il veut. Est-ce qu'on peut démarrer votre trilogie par le deuxième tome ou pas?
Oui. En fait, je me suis arrangé pour que les histoires soient complètement indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire que avoir lu le premier vous donne quelques clés, mais en fait vous pouvez les retrouver dans le second tome d'Audace et de Liberté. Justement pour cette raison qu'on soit pas obligé ou de se sentir obligé de lire le premier. En fait, si vous lisez le tome 2, ensuite vous lisez le premier, vous ferez un flashback de 300 pages dans la vie de mes personnages.
Vous verrez les héros plus jeunes.
Plus jeunes, plus beaux, plus forts et plus dans la mouise.
On retrouve donc Adam Haït Amar, c'est le nom de votre héros de Bouzoulem, à côté d'Elxor. Donc, vous le disiez tout à l'heure, il a été enrôlé, kidnappé pour aller faire la guerre.
Mais beaucoup de jeunes ont été enrôlés. On imagine qu'ils sont tous partis la fleur au fusil défendre la France métropolitaine attaquée, mais pas du tout. Les trois quarts étaient contraints. Évidemment, beaucoup de Français aussi ont été contraints. Mais enfin, eux, ça avait un sens quand même. C'est-à-dire qu'ils défendaient leur territoire attaqué, tandis que quelqu'un qui est au fin fond de sa montagne, quel est le sens de traverser la mer et d'aller défendre une liberté qu'il n'a pas chez lui?
Donc il est parti faire la guerre, il s'évade, il lui arrive plein de trucs, il fait du marché noir. Voilà. Et là, dans ce deuxième tome, eh bien, il retourne au village qu'il a quitté pour aller enterrer la dernière des Haït Amar. C'est la tante Safia que personne n'aimait vraiment beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il décide de retourner l'enterrer, sa vieille tante, à une époque où quand même on circulait moins vite qu'aujourd'hui, hein?
Oui, à l'époque on circulait moins vite, mais le téléphone arabe circulait très bien lui en revanche. Donc il apprend que sa vieille tante est décédée, puis surtout il prend conscience que c'était la dernière de sa tribu. Et donc, comme un retour aux sources, il retourne dans son village à Bouzoulem. Je parle toujours de ce village, parce que c'est le village de mes parents. Sinon,
Bouzoulem.
Bouzoulem. Ah, ça, il va falloir que ça devienne un peu un des phares.
Un petit peu le Tixirt-sur-Mer de.
Oui, c'est ça. En fait, c'est un peu mon histoire aussi. C'est un peu mes racines. Et puis j'ai des souvenirs là-bas.
T'avais qu'un Z ou un S?
Oui, écoutez, moi, quand j'étais gamin et que j'écrivais des lettres là-bas, je mettais un S. Mais à la vérité, c'est un Z.
Parce que j'ai vérifié, donc je me suis dit...
C'est un Z. Ouais. Mais bon, comme j'ai commencé avec un S...
Peut-être que pour le troisième tome, on verra un changement.
Il y a quelqu'un qui va changer la lettre S par la lettre Z. Donc, il s'en retourne dans son village et enterrer sa vieille tante. Et évidemment, il y a plein de souvenirs qui refluent, quoi. Et puis, il retrouve des gens qui ne sont pas partis à la guerre ou qui sont revenus estropiés, esquintés. Et il leur raconte ce qu'il est devenu. À savoir que, donc, il est retourné en France parce qu'il n'avait plus d'attache, parce que celle qu'il aimait a été enlevée par le caïd du village pour en faire sa deuxième ou troisième épouse.
Celle qu'il aime, c'est
Zina,
l'amour de
ses jours et de toutes ses nuits rêvées.
Mmh. On a combien d'amour dans la vie, Akli Tadjer? Grand amour.
Je pense qu'on en a un vrai. Et puis les autres sont des amours de compensation.
Ouais.
Oui, je pense.
On recherche toujours ce premier amour.
Oui. même si son premier amour, on a toujours 17, 20 ans et tout, même quand on en a 60, ben, on a toujours 17, 20 ans quand on y repense.
Mais là, c'est marrant parce que dans ce deuxième tome, pour lui, c'est mort et il n'essaye même pas, en fait, de la récupérer.
Bah, il n'essaye pas de la récupérer parce que pour lui, c'est insurmontable. Elle est déjà mariée. Et puis il faut recontextualiser, cher Jean-Philippe.
J'aime bien quand vous m'appelez Jean-Philippe. Appelez-moi Jean-Philippe, c'est bien.
Jean-Philippe Robichon.
Voilà, appelez-moi comme vous voulez, en tout cas. Donc, on recontextualise.
En 45,
Jean Akitadjer. Ça me fera penser à Amrouche, hein. C'est comme ça, vous voyez. Jean Mouloud Amrouche.
Alors, en 47, on piquait pas la femme du cadi, du notable, qui avait tous les pouvoirs du coin, quoi. Même s'il l'avait volé.
Voilà. C'est physique d'écrire une saga, parce que une saga, ça fait au moins 1000 pages. Il faut avoir un entraînement de sportif, parce que c'est.
Ah bah, c'est physique, oui, c'est très physique, parce que je ne sais pas si c'est un grand intérêt, mais moi, je travaille beaucoup du matin. Je me lève assez tôt, j'écris, et je me relis quand je peux l'après-midi. Et il faut que ce soit continu, parce que l'imagination... Évidemment, je n'ai pas tout quand j'écris un roman. J'ai le début, j'ai la fin, je sais. Mais entre les deux, souvent, je fais confiance à mon imagination. Et l'imagination, pour un écrivain, c'est comme un sportif. Ça se travaille tous les jours.
C'est un muscle, en fait.
C'est un muscle. Ouais. Et plus vous travaillez, plus l'imagination revient, plus des souvenirs. Puis c'est incroyable ce que le cerveau peut engranger à la vérité. Des infos qui vous paraissent complètement anodines d'il y a 20, 15 ans et tout, d'un seul un mot vous renvoie à cette histoire, quoi. C'est incroyable. Par exemple, imaginez que vous écriviez vous avez 6 ans. A priori, comme ça, vous ne pensez pas tous les jours que ce qui s'est passé dans votre vie quand vous aviez 6 ans. Il suffit que vous écriviez sur cette époque et d'un seul coup, vous avez un tas de souvenirs, mais parfois des détails infimes auxquels vous ne pouviez penser même 5 minutes avant. Donc ça, c'est la magie de l'imagination. Et donc, effectivement, c'est un travail de longue haleine, mais voilà. Moi, j'aime bien me donner des défis comme ça. Comme vous savez, quand j'ai commencé, j'ai écrit un premier roman un peu comme ça, sur une envie, sans penser à une carrière d'écrivain. D'ailleurs, le mot carrière écrivain, ça me paraissait totalement antinomique.
Mais votre premier roman, c'est le premier qui est sorti, qu'on connaît, ouais. Les Aénies, ou c'en est un autre?
Non, c'est celui-là.
Vous pourriez en avoir un dans un tiroir qui n'a jamais été publié.
Non, j'ai pas du tout de tiroir, non.
Les Aénies, ce sont les Arabes non identifiés.
Ouais, c'était le premier, c'était l'histoire
quoi,
de
presque 40 ans.
C'est 84.
Oui, ouais, presque 40 ans.
Donc, j'avais raconté ça vite fait j'avais commencé vite fait sur le bateau Tassili qui fait la traversée entre Alger et Marseille. J'avais trouvé ça cocasse. C'était un peu pour moi la Elena Veva de Fellini. Il se passait des choses complètement extravagantes. Et puis, donc, ce roman a été publié. Donc au seuil, mais moi je pensais m'arrêter là, quoi. Je me suis dit, je vais raconter une histoire et puis je vais faire autre chose. J'étais quand même assez jeune, j'ai dû avoir 27 ans comme ça. Et puis j'ai eu la chance que ce roman soit adapté pour la télévision. Et après j'ai fait du scénario,
Mais c'est de la chance ou vous l'avez voulu parce que.
Non, mais
la chance dans ce métier, elle tombe pas forcément toujours comme ça.
Non, mais je pense aussi. D'abord, il faut y croire. Une espèce d'inconscience quoi, qui fait que moi j'ai créé une histoire qui n'est pas sûre d'intéresser les gens et surtout que personne ne m'a demandé d'écrire une histoire. C'est ça qui est drôle. Vous écrivez des histoires que personne ne vous demande.
Moi, après, quand on est connu, c'est votre éditeur qui vous demande d'écrire des histoires.
Oui,
bien sûr,
mais au début, il faut une espèce de naïveté, une foi en soi quand même. Sinon, ça ne marche pas, parce que l'abattement arrive facilement. Vous dites, oh là là, j'arrive pas, est-ce que ça a un sens, est-ce que ça a un intérêt ou pas, est-ce que je sais faire ça? Et en fait, ce qu'il y a de fascinant et de quasiment magique, c'est qu'il n'y a pas d'école d'écrivains, ça n'existe pas.
Aujourd'hui, ce qu'on voit fleurir, ce sont des masterclass.
Oui. Enfin, ça, c'est un peu...
Les masterclass, donc, les grands auteurs donnent leurs secrets pour écrire un bon roman.
Oui, mais ça ne fait pas le talent, ça. Moi, si je vous dis que pour écrire il y a deux écoles de romanciers, ceux qui écrivent à la troisième personne et ceux qui écrivent à la première personne, ça ne va pas faire de vous un génie, même si vous écrivez à la troisième personne.
Surtout que vous écrivez à la première.
Moi, j'écris tout le temps à la première personne, parce que j'aime bien être dans la peau du narrateur. quand j'écris, quand je rentre dans la, dans la peau du personnage de la dame, je suis le personnage. Je ressens tout ce qu'il ressent. J'éprouve tous ses sentiments. Quand il va au feu, c'est moi qui suis au feu. Là, je suis parmi les Allemands qui nous canardent. Quand je suis amoureux, quand mon personnage est amoureux, moi, je suis amoureux de Zina, pour de vrai. Je ne fais pas semblant. Vous voyez ?
Votre héros, donc, Adam, là, il est dans sa trentaine. Enfin, en tout cas, dans, dans le deuxième tome qu'on évoque ce matin. Je le trouve moins sympathique que dans le premier tome. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'il est moins, qui croit moins en la vie?
Ah, je crois que c'est, je crois pas qu'il croit moins en la vie, puisqu'il a, il a quand même un combat. C'est quand même
De penser cette Algérie nouvelle.
Ouais. Comment le faire et avec qui? C'est pour ça qu'il réunit des gens, des immigrés, des rescapés de la Seconde Guerre mondiale, voire de vieux qui avaient fait la Première Guerre mondiale et qui sont restés en France. Et
mais il n'est pas plus dur. Il n'est pas plus dur, finalement.
Bah, en fait, c'est un homme blessé, quand même. C'est un homme blessé. Il a perdu celle qu'il aimait.
Il a refait sa vie. Il a
refait sa vie avec... avec Elvire qu'on avait dans le premier tome.
Voilà, qui est la voisine de palier.
Qui l'a sauvée, même.
Une juive. Ils ont fait de la résistance, du marché noir ensemble.
Et c'est un amour de compensation, c'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure.
Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est parce que là vous parliez de restituer les choses dans l'époque, c'est que elle est juive, il est musulman, et ça étonne les gens. Ça paraît fou à l'époque.
Bah, ça paraît un peu fou aussi aujourd'hui, hein. On va pas se raconter d'histoire, mais à l'époque aussi. Mais
il n'y a qu'eux qui ne le pensent pas.
Bah oui, parce qu'en fait, ils sont mus par leurs sentiments amoureux. Donc ça dépasse tous les clivages. Et ils sont mus aussi par la même histoire. C'est-à-dire que lui, il a sauvé des nazis. Et elle, en retour, elle a perdu son père dans des camps, du moins le croit-elle. Et donc, c'est aussi sa bouée. En fait, c'est l'addition de deux solitudes et de deux drames. C'est pour ça qu'en même temps, ils sont très, très soudés.
Akli Tadjer est avec nous, l'invité du Book Club, à l'occasion de la sortie d'Audace et de Liberté. C'est le tome 2 de votre saga, qui en compte 3. Et l'éditeur, c'est Les Escales.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, d'audace et de liberté, c'est le titre du deuxième tome de la trilogie que vient de nous présenter Akli Tadjer ce matin. L'éditeur, c'est Aux Escales. Vous lui avez donné un nom à votre trilogie?
Non. Non, non. Je pense que... Non, je n'y ai pas pensé, à la vérité. Donc, c'est une petite question piège, je dois dire.
C'est vrai. C'est vrai que je ne vous ai pas envoyé toutes les questions avant. Vous
ne m'avez pas envoyé toutes les questions.
Voilà. Sur un SMS, ça ne passait pas.
Ça ne passait pas.
Il y a toujours un événement historique qui revient dans votre livre. Cette fois-ci, on est en 1947. On est à quelques mois de la résolution de l'ONU qui va créer deux États. Et ils partent. Alors, Adam part découvrir Jérusalem, qu'il n'aime pas du tout.
Oui. Bah, et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment la grande histoire, mais les gens comme vous et moi qui la vivons. Et c'est ça qui me fascine, moi. C'est pas la grande histoire racontée par des historiens, parce que je ne suis pas historien et ça ne m'intéresse pas. Mais j'aime bien plonger des gens dans des univers, évidemment, qu'ils ne maîtrisent pas. Quand Elvire, finalement, reçoit une lettre de son père... où elle apprend que finalement il n'est pas mort dans les camps.
Alors c'est pas son père qui lui écrit, c'est
Bref. Et elle décide d'y aller. Adam y va aussi parce que
il veut voir,
il veut découvrir le monde. C'est un jeune homme, un homme plein de curiosité. Et on n'est rien sans la curiosité. Moi je dis aux gens tout le temps, soyez curieux, c'est important, allez découvrir, allez vers les autres. Oui, il y a des gens, vous leur donnez un tas de briques, ils construisent des murs, et puis il y en a d'autres avec un tas de briques, ils vont construire des ponts, voyez-vous. Et moi je préfère construire des ponts. Et donc lui, il va aller à Jérusalem. Évidemment, il y a très peu d'Algériens qui allaient à Jérusalem en 47, hein. Ça doit être le seul à peu près. Donc, et il découvre ce monde et ça ne lui plaît pas du tout. Il n'imaginait pas ça du tout. D'abord, bon, il découvre la mosquée d'Al-Aqsa. Pour lui, c'est important parce que c'est un référent culturel, religieux, historique, etc. Mais le reste, ça lui déplaît. Il voit cette ville en pleine tension permanente, qui lui rappelle aussi que c'est une guerre qui l'attend, qui se prépare et qui va venir. Et ça, il le pressent parce que il revient de la guerre.
Il voit les tensions sur
place. Il voit les tensions entre religions. Il voit d'abord, il découvre aussi, comme beaucoup d'Algériens d'époque, qu'on peut être arabe et chrétien.
Il n'en avait jamais vu avant, parce qu'il rencontre des Arabes chrétiens.
Il comprend pas. Et d'ailleurs, c'est un Arabe palestinien qui va lui parler de saint Augustin, dont il n'avait jamais entendu parler. Il lui dit, mais vous avez un célèbre...
L'évêque d'Hippone.
D'Hippone. Vous avez un de nos plus grands penseurs, qui est saint Augustin, qui est chez vous et tout. Lui, il découvre. Et moi, je trouve ça fascinant, quoi. Et puis, il découvre cette vieille ville de Jérusalem, où finalement, là aussi, on raconte des fables, c'est-à-dire que tout le monde s'entend, tout le monde s'aime et tout, alors que c'est pas vrai. Il y a des tensions. Il y a l'armée anglaise qui est à chaque carrefour, il y a des checkpoints partout, et puis il y a des nouveaux migrants juifs qui arrivent, et c'est un nouveau monde qui s'installe, et il sent bien que ça va mal se terminer, toute cette histoire. Et c'est un pays qu'il n'aime pas. Il n'aime pas. Et ça, c'est avant la partition de la Palestine.
On est juste
au moment. Ouais, c'est là qu'il
c'est le moment où il y a la création des deux États.
Voilà. Et moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce regard-là sur cette époque-là.
Vous avez aimé vous plonger dans cette histoire-là, à cette époque-là?
Ah, mais moi, j'ai aimé parce que c'est révélateur de quand on lit cette histoire à cette époque, on n'imagine pas que ça puisse bien se terminer.
Déjà,
tout de suite, tout de suite, parce que parce qu'il y avait plus de juifs à Jérusalem que d'arabes chrétiens ou musulmans. Il y en avait déjà plus à l'époque, et c'était déjà compliqué. Parce que la religion, c'est pas toujours des ponts. Ça veut dire la religion, ça veut dire qu'il relie, mais souvent ça relie pas du tout. Et souvent il y avait des tensions, mais ces tensions, elles datent d'avant les Anglais, d'avant les Ottomans, d'avant. Enfin bon, bref, c'est la nature humaine, on va dire. Mais quand après la Seconde Guerre mondiale, vous avez tous ces Juifs qui arrivent en Palestine, parce que ce qui s'est passé, c'est que les Juifs en 39 pensaient pas la même chose, par exemple, de la France en 45.
Et là, on le voit très bien avec le père d'Elvire, qui lui a un fort ressentiment vis-à-vis de la France.
Voilà, il veut plus, il se dit que...
C'est eux qui l'ont livré.
Alors, il y en a beaucoup qui sont partis aux États-Unis, et puis beaucoup qui ont voulu aller en Palestine. À l'époque, la Palestine, qui n'était pas encore Israël. Et donc, quand ces gens vont arriver, et puis c'est petit Jérusalem, quand ils vont arriver tout ce monde, ils se disent bien que ces gens vont forcément occuper des terres qui ne sont pas les leurs, qui vont acheter des maisons qui ne sont pas les leurs, et ça va être petit à petit un dépecement de cette ville, et puis un reflux de beaucoup de Palestiniens et chrétiens et musulmans, voire des juifs de Palestine, palestiniens, qui ont été aussi recalés pour faire venir tous ces juifs d'Europe qui ne connaissaient pas, parce qu'ils ne parlaient pas du tout l'arabe, ces gens-là. Ils étaient soit francophones, soit germanophones, soit etc. Et c'était... Voilà, on sent qu'il y a des tensions. Il y avait déjà des tensions, elles ont été ravivées par ça, à tel point que les Anglais en ont eu leur claque et qu'ils sont partis. Ils ont dit... débrouillez-vous entre vous.
Il refuse, finalement, de rester vivre en Palestine. Son projet, son histoire, c'est l'Algérie.
Oui,
c'est l'Algérie nouvelle qui est à inventer, finalement, et c'est son combat.
Ah, c'est son combat, parce que je vous ai parlé des Juifs après la Seconde Guerre mondiale, qui ne voyaient pas le monde, évidemment, de la même façon qu'avant. Mais il en était de même pour les soldats coloniaux. C'est-à-dire que il ne voyait pas du tout l'Empire français comme il le voyait avant, parce que on s'est effondré en 39 à une vitesse quasi supersonique. Les Belges ont résisté plus que nous, pour dire les choses telles qu'elles sont, et ils se sont dit mais c'est pas possible, cette France n'est pas aux 100 millions d'âmes, comme on disait, n'est pas la plus forte du monde. Les Allemands sont rentrés en France comme dans du beurre, quoi, très très facilement. En plus, je vous parle même pas de la collaboration, etc. Et c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale que les premiers mouvements indépendantistes sont nés. Il y en avait avant, mais là, carrément, sont nés. D'ailleurs, ça a commencé par l'Indochine, Et ensuite, ça a été l'Algérie, puis d'autres, d'autres mouvements indépendantistes. Et,
beaucoup dans l'immigration, hein, d'ailleurs, en France.
Oui, oui, beaucoup, beaucoup, parce qu'en fait, c'était en France qu'ils étaient le plus politisés. Là, il y en avait beaucoup, par exemple, qui étaient politisés dans l'industrie, chez Renault, chez Peugeot, etc., parce qu'il y avait beaucoup de syndicats. Et c'est là où on leur a appris à mener des combats, etc. Si vous voulez voir que vous soyez audible, il faut que vous fassiez ci, ça et ça et ça. Et c'est beaucoup, parce que c'était pas en Algérie où il y avait quand même encore une chape de plomb, alors qu'il s'est aggravé jusqu'en 62.
Idéologiquement, Adam milite pour une Algérie libre. Lui, il parle d'un génocide identitaire qui a fait de, je mets des guillemets, de nous des hommes ni tout à fait français, ni tout à fait kabyles, ni tout à fait arabes. Et de son point de vue encore, nous étions en sorte un peuple hybride qui avait fini par développer un complexe d'infériorité.
Mais c'est très vrai ça. Il y a eu un génocide identitaire. C'est-à-dire que quand vous avez tous les villages, toutes les villes et tous les villages à qui on change le nom, c'est-à-dire que vous appelez tel village Nogent-sur-Oued,
ah, Nogent-sur-Oued, mais qui est très connu, qui est très visité.
Connu, mais même plein de quartiers d'Alger qui ont été Beaufraisier, etc. Tout ça, ce sont des noms français. Ils avaient des noms autochtones au départ. Ils avaient des noms. Mais à partir du moment où vous dépouillez les gens d'identité de leur village, vous les dépouillez eux-mêmes. Imaginez, durant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation, imaginez que toute la zone occupée, d'un seul coup, on change les noms de toutes ces villes et qu'on oblige les gamins qui vont à l'école à apprendre le nom des héros allemands, des victoires allemandes, des succès allemands et de la beauté du Troisième Reich. Qu'est-ce qu'on aurait dit ? On aurait dit c'est un génocide identitaire. Nos belles villes de Normandie portent des noms de villes de la Sarre, de la... Voilà, moi c'est ce que j'appelle un génocide identitaire. Et alors... ça a duré plus de 130 ans, cette histoire. Finalement, ça a fini par dépouiller les gens de leur identité, et puis ça a fini aussi par les détruire aussi, par finir même plus se souvenir du nom original du village. D'ailleurs, même maintenant, des fois, ça reste. Hein, y a alors, quand ce sont des personnages importants de la culture comme Victor Hugo, voilà, moi, ça me fait plaisir, parce que c'est des personnages
universels.
C'est universel, voilà. Mais quand un quartier s'appelle Beaufraisier, ça devient gaguesque, quoi.
Ouais, Maison Blanche, c'est mieux.
Maison Blanche, ça ne s'appelle plus Maison Blanche maintenant. Maison Blanche, ça va encore. Passe Maison Blanche. Mais alors, quand c'est que les villages donnés, on donne des noms de salauds à des villages, ça devient un peu. Pensons au cher général Bugeaud.
Oui.
Donc, ça devient un peu grotesque.
Bugeaud. Violent. Le fameux. L'enfumeur.
Oui.
Comme on disait.
Voilà.
C'était pour c'était sur le tome précédent, ça. C'était c'était la genèse de votre saga. Atli Tadjer est avec nous. Alors, vous m'avez pas répondu tout à l'heure. Donc, d'audace, on peut imaginer que c'est d'Anton et de Liberté. C'est Paul Éluard ou pas?
C'est Paul Éluard, la Liberté.
Ouais, Paul Éluard.
Vous savez que Paul Éluard est né à Saint-Denis?
Ouais. Et je vous disais qu'il était mort à Charenton.
Donc, mais je suis assez amoureux de sa poésie.
Ouais.
Voilà, je trouve que c'est un personnage important de la poésie. Puis c'est un poète populaire, il n'y en a pas beaucoup. Souvent, c'est des gens un peu hermétiques, un peu... Mais voilà. Et je trouve que c'est important de... Parce qu'on ne l'étudie plus beaucoup. On imagine que c'est des gens poussiéreux, c'est des noms de rue, on ne sait plus trop qui sont ces gens, etc. Je trouve que c'est important de les faire revivre à travers des romans. Et puis c'est aussi un des fondements de notre culture, la poésie.
Avec les Tadjer sur Beurre FM.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux. Et les doigts s'égainent de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter sa physique. Son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une vraie tordue de la musique.
Édith Piaf, l'accordéoniste, ça fait partie de la bande originale du livre de mon invité, Atli Tadjer, qui le livre s'appelle D'audace et de liberté aux éditions Les Escales. À noter que le tome 1 vient de sortir en poche chez Pocket. Voilà, comme ça, vous pouvez partir en vacances avec les deux. Voilà. Edith Piaf, elle, pour le coup, elle a une vraie histoire qui pourrait vous intéresser, hein, quitte à dire.
Ah oui, Edith Piaf,
c'est... Elle, elle n'a pas besoin de scénariste dans sa vie.
Non, sa vie, c'est un film. Hein. Ah ouais. Sa vie, c'est un film, c'est une histoire avec des soleils et des brûlures. Hein. C'est que ça, sa vie. Hein. C'est une fille qui sort du ruisseau, au sens propre. Hein. C'était une fille de chiffonnier. Alors, on prétend qu'elle ait des origines nord-africaines, mais bon, on a tous hein, des origines nord-africaines. On est tous des Africains transformés par le temps.
Oui, c'est vrai.
Donc,
les succès des tests ADN le prouvent.
Donc voilà. D'ailleurs, c'est même pas ça qui est important chez elle. Ce qui est important, c'est la foi, c'est le feu. Hein. Quand elle chante, voilà, voilà, ça vibre et ça fait résonner en vous des choses incroyables. Pourtant, elle n'est pas de notre époque. Mais en fait, quand je l'écoute à chaque fois, voilà, parfois ça me file le cafard parce que ça me renvoie des histoires un peu perso. Mais parfois, c'est...
Ah bon ?
C'est une centrale...
Quoi, par exemple ?
Perso, j'ai dit.
Bah c'est justement, c'est à partir
j'ai
de...
Perso,
en fait, il faut, c'est tout ce qu'il ne faut pas dire.
J'ai dit perso, je n'ai pas dit public. D'accord ?
Vous voulez qu'on en parle ?
Mais on est chez le psychanalyste ou on est à Radio
Blanc ? Non, c'est intéressant. Vous avez retrouvé l'affiche de son spectacle à l'Alhambra ?
J'ai retrouvé sur Internet, oui. Elle est magnifique. De toute façon, c'est à peu près tout le temps la même affiche, hein, avec sa petite robe noire sur un fond noir. Elle est habitée par ce qu'elle chante, quoi. C'est ce qu'on ressent.
En tout cas, il y a un nouveau personnage que vous introduisez dans ce tome-là. Moi, je mets un billet qu'elle va jouer un rôle important pour la suite, qui aime beaucoup Piaf et qui aime beaucoup cette chanson.
Oui,
et l'énergie de cette chanson.
Mais parce qu'elle transmet de l'énergie. Elle transmet l'énergie à une jeune femme qui s'appelle Nour, qui vient d'Algérie avec son père, qui a une histoire douloureuse en Algérie. Et qui, c'est là le paradoxe. C'est des gens qui ont subi la violence en Algérie et qui se disent, eh ben peut-être que j'aurai une vie moins violente si je vis en France, parce que peut-être les gens seront moins regardants sur mon origine et sur mon histoire, parce que je pourrais mieux me fondre dans la population. Ce qui est pas faux.
Hein. Oui, mais enfin, on découvre au lendemain de cette deuxième guerre mondiale une France excessivement raciste et décomplexée vis-à-vis des Africains du Nord.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, bah oui, mais ça l'était déjà avant. Donc voilà, sauf que la parole se libère un peu plus, et puis c'est une France qui est un peu à reconstruire. Quand on est une France à reconstruire, à qui on fait appel, évidemment, à la main d'œuvre corvéable, à merci, c'est-à-dire les jeunes gens d'Afrique du Nord en général, mais beaucoup d'Algérie, quoi. Moins du Maroc et de Tunisie, mais beaucoup, parce qu'on se dit c'est un réservoir humain, et comme le pays a été ravagé, ben eux, ils seront faits pour porter les madriers, les planches, monter sur les échafaudages et reconstruire la France, quoi.
Le quartier Mouffetard, hein, là où vous êtes, pour la partie parisienne de votre livre, c'était une partie où il y avait beaucoup d'Algériens qui avaient atterri.
Oui, il y avait beaucoup. Dans le 13e, il y a aussi. Il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup aussi dans le quartier Mouffetard. Ça, c'est des quartiers populaires où ils se retrouvaient surtout le dimanche, là, pour discuter, voilà, la vie. Et puis, un jour, est-ce qu'on sera libre? Est-ce qu'on sera nous-mêmes, enfin? Est-ce qu'on pourra être libre comme des Français? Voilà, c'est à ça qu'ils pensaient. Et donc, mon personnage, donc Adam, fait des réunions avec ces gens. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Et alors, il y a des gens qui ne savent pas trop ce que c'est que la liberté. C'est ça qui est incroyable. Il dit, mais pour toi, la liberté... Finalement, la réponse vient d'un chauffeur de taxi qui parle jamais et qui écoute, qui est là pour un peu pour s'instruire, pour on lui dit, et toi la liberté, qu'est-ce que c'est pour toi? Et il dit, ben pour moi la liberté, c'est refuser de faire ce que je veux pas faire, et la vérité, elle est là. La liberté, c'est de pouvoir dire non et de pouvoir l'assumer, parce que ça, c'est encore plus dur. Mais dire non, ça je veux pas le faire, ça je le ferai pas, c'est ça être libre.
Je vais demander à Cli quelques livres à lire pour l'été. Donc il y a le tome 1 d'Audace et de Liberté qui vient de sortir en poche, comme ça c'est fait. Alors qu'est-ce que vous proposez?
Ah oui, alors je vous ai concocté une petite liste de 3 livres, parce qu'après, bon, les vacances, c'est quand même les vacances. Hein. Et je viens de terminer un livre qui s'appelle La goûteuse d'Hitler.
Ah oui. Qui est pas récent. C'est récent, ça?
Bah, je l'ai lu en poche, là, récemment.
Ouais, c'est ça, ça vient de sortir en poche.
C'est fantastique, et c'est tiré d'une histoire réelle. On est en 43, Hitler est dans son nid d'aigle et tout, il a peur qu'on l'assassine. Et donc, il sélectionne 43 jeunes filles, parce qu'on est en 43, sur des critères bien particuliers, évidemment sanguins, etc. L'autre a la plus de cholestérol, l'autre moins et tout. Et c'est l'histoire d'une goûteuse. Elle approche Hitler, et à chaque fois, elle doit goûter, etc. Et elle découvre, évidemment... elle est au cœur du cœur du et elle découvre que ces gens sont complètement timbrés, tous parano, etc. Donc ça, c'est intéressant, c'est un regard sur l'histoire. Et donc elle s'appelle Rossella Pastorino, cette jeune femme, la goûteuse d'Hitler. Donc j'ai découvert ça. J'en recommande un aussi qui est intéressant, qui s'appelle.
On l'offrira à Tariq.
D'accord. Oui, c'est un des personnages.
Qui était assez sensible au Troisième Reich.
Aux sirènes du Troisième Reich. Le deuxième, ça s'appelle Le visage de pierre. C'est de William Gardner Smith. C'est en poche aussi. Alors ça, c'est incroyable. C'est l'histoire d'un noir américain qui subit aussi, évidemment, le racisme. À l'époque, on est en 60. Donc, on est déjà... ça commence à se décoincer, mais c'est encore lourd, etc. Et tout. Et puis, il apprend que, finalement, Paris, c'est une ville exceptionnelle quand on est noir. C'est ce qui se dit aux États-Unis. Ah ouais. Donc, il arrive à Saint-Germain-des-Prés. Évidemment, il y a les boîtes de jazz, etc. Les noirs américains sont vus comme des novateurs, quoi. Ils apportent Miles Davis, ils appellent toutes sortes de modernité. La France des années 60 est éblouie, nouvelle musique, façon de danser, de bouger et tout. Et il est chroniqueur pour un petit journal de Harlem. Et puis, jusqu'au jour, il va devenir ami avec un jeune Algérien. Et là, tout va basculer. Parce que ce jeune Algérien va lui montrer une autre face de Paris. Et il l'emmène à Barbès, des endroits où il y a une forte immigration. Et là, ça le renvoie à son histoire, à Harlem. Et j'ai trouvé ça fantastique, parce que d'un seul coup, le monde des paillettes parisiens devient le monde ingrat de Paris. Et c'est un témoignage, c'est un récit, mais c'est un témoignage.
D'accord, ça part d'une histoire vraie.
Et ce qu'il y a de fort et tout, c'est que c'est le seul Américain qui était témoin de la manif d'octobre 61. Il était là. Et il raconte avec ses yeux d'Américain cette manifestation. Alors, il n'a pas tous les éléments de la guerre d'Algérie, il ne comprend pas tout et tout. On essaye de lui expliquer, mais lui, c'est tellement loin de ça. Et j'ai trouvé que c'était fascinant.
On rappelle le titre du livre de Gardner, allez-y.
Alors, ça s'appelle Le visage de pierre.
Le visage de pierre. C'est en poche?
C'est en poche, oui. Et c'est très intéressant.
Vous le vendez bien. Il va vous envoyer des...
Ah oui. Elle est morte. Alors, il ne va rien m'envoyer.
Rien du tout. Mais l'éditeur.
Ah, peut-être.
On va dire, tiens.
Et puis, sinon, bah, voilà, comme on est un peu dans l'actualité, puis quand même, il faut qu'on se parle de nos dictateurs qui vont nous envoyer bientôt peut-être le pire, c'est-à-dire la ferme des animaux de George Orwell. Et bon, voilà, c'est toutes les dérives de je vais faire votre bonheur, moi je sais ce qu'il faut pour vous, je sais comment vous rendre heureux et tout. Évidemment, on commence par soi, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même.
Le papa de 1984.
Voilà.
Pareil, on l'empoche. Hein, donc,
voilà, il est en poche et tout. Je trouvais que c'était bien. En même temps, c'est léger, c'est une espèce de fable. Et en même temps, tellement d'actualité.
Moi, je pensais que vous alliez nous donner Le voyage au centre de la Terre, mais non.
Je peux vous parler de La Datcha de Agnès Martin Lugan. Voilà, un bouquin d'été, super sympa et tout. Et ça prend pas la tête. Et puis, c'est bien quand il y a un peu de sable de plage entre les pages.
Ouais. Vous lisez quand vous écrivez? Est-ce que vous lisez les autres ou au contraire, c'est la diète?
Ben, c'est un peu la diète, parce que comme je lis beaucoup de choses qui ont trait à ce que j'écris, j'ai du mal à... Puis, voilà, j'aime bien faire autre chose que lire et écrire, quand même.
On parlait d'Edith Piaf tout à l'heure, mais Adam a la chance incroyable de rencontrer Slimane Azam.
Ah oui, oui, c'est vrai. C'est ça qui est magique quand vous faites de la littérature.
C'est furtif.
Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est que vous pouvez faire rencontrer... tout le monde à votre narrateur, quoi. Et là, en l'occurrence, il rencontre Slimane Azam dans un café qui vient chanter. Et je trouvais que c'était important. C'était un clin d'œil. En fait, c'est un clin d'œil à l'histoire de mes parents, parce que mes parents adoraient ce chanteur, comme beaucoup de Kabyles d'ailleurs. Et je me suis dit que voilà, c'était un petit clin d'œil, ça serait sympa. De toute façon, comme ils ne savaient pas lire et qu'ils ne sont plus là, ça ne changera rien. Mais c'est un petit clin d'œil pour,
voilà,
pour ceux qui,
rencontre
qui l'ont estimé.
Avec Slimane Azam. Le troisième tome, c'est pour quand ?
Je pense que ce sera pour l'année prochaine. Là,
d'accord.
Je suis en plein dedans.
Et donc là, Zina et Adam, ou pas
Oui, je pense que c'est possible. Parce que
mais le public réclame. Non, mais attendez, c'est la première chose.
Moi,
c'est la première chose que je vous dis.
Ouais. Vous savez, un roman, même s'il est historique, même s'il y a un fond historique solide et tout, c'est avant tout, il était une fois. Et voilà. Et je vous raconte une histoire.
Histoire
de Jean.
Machao.
Machao.
Voilà. Voilà. Akita Djer, le Book Club, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la captation sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Quel plaisir de vous revoir.
Pareil, et puis bonnes vacances
à tous ceux qui en prendront.
Puis à tous les lectrices et les lecteurs, parce que la littérature, ça fait quand même voyager aussi.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.